Stop, c'est parti.
Française.
Deux condamnations ce soir dans deux affaires d'offense au chef de l'État.
Mesdames et messieurs,
on écoute le président de la République.
Bonjour à tous, quatrième épisode de ce hors-série proposé par l'Instant M.
Vous êtes convaincu que le crime de lèse-majesté est fait la vie.
Casse-toi, pauvre con.
Vive la République, vive la France.
Roi, empereur, président, deux siècles que le chef de l'État se fait copieusement insulter par voix de presse. Raillerie, édito féroce, caricature, l'Instant M remonte le temps de ses attaques personnelles et des procès qu'elles ont engendrés pour crime de lèse-majesté. Cinq épisodes pleins d'insolence et de non d'oiseaux, nous avons choisi d'en consacrer deux entiers à Charles de Gaulle, tant le général va utiliser le délit d'offense comme arme politique face au coup de pilon de l'extrême droite. Alors, censure ou légitime défense? Si vous avez manqué le début de cette série, si vous voulez dès aujourd'hui en connaître la fin, les cinq volets sont disponibles en podcast sur franceinter.fr et sur notre appli.
L'Instant M. Sonia de Villers sur France Inter.
La voix drôle de voix, profonde et saccadée, la voix qu'on écoutait tout bas, les portes bien fermées, la voix qui racontait une France à ton goût, moi. Quand elle va se taire, je te parie sans sous.
Gilbert Bécaud, en 1965, tu le regretteras. Gilbert Bécaud qui imagine et qui anticipe le départ du général de Gaulle. Bonjour Olivier Beau.
Bonjour.
Vous êtes professeur de droit public à l'université Panthéon-Assas, auteur de La République injuriée, histoire des offenses au chef de l'État, qui est paru au PUF. Vous revenez ce matin pour un nouvel épisode consacré au roman noir du général de Gaulle, à ces textes ultra-virulents que publiera l'extrême droite à tour de bras. On commence avec un retentissant procès, celui de Jacques Laurent, écrivain, en 1965. Il déteste de Gaulle et il ne pardonne pas à son ami François Mauriac d'aimer, lui, le général.
Jamais le citoyen, l'individu, le solitaire n'a été autant soumis à la pensée officielle. Eh bien, je pense que dans un temps où le citoyen est vraiment écrasé par la pensée officielle, le rôle de l'écrivain, si on veut à toute force l'en trouver un, est précisément d'être tout le contraire d'un officiel et d'être tout le contraire d'un engagé. S'engager, ça veut dire que l'on renonce à sa personnalité, à ses singularités, pour suivre une cause, un parti, un groupe, une masse, etc. Eh bien, que jamais plus qu'en notre époque, on a eu besoin de gens qui étaient libre, mais même par rapport à eux-mêmes.
Jacques Laurent qui fera l'objet d'un grand procès, très suivi à l'époque, Olivier Beau.
Oui, c'est le plus grand procès des offenses sous la cinquième. C'est connu parce que Jacques Laurent était très connu, et c'était également Cécile Saint-Laurent. Il avait donc une double identité littéraire, il était très connu comme pour l'auteur des romans populaires sous le nom de Cécile Saint-Laurent. C'était une figure intellectuelle, un esprit libre, et qui a réussi à agréger autour de lui beaucoup d'écrivains pour défendre sa cause. Et puis il a aussi réussi à agréger, lors du procès, des hommes politiques qui sont venus témoigner en sa faveur. Mitterrand devait, mais il n'est pas venu, Marcy Lassie est venu. Donc il a réussi à fédérer énormément de gens sur le thème « la liberté d'expression doit être absolue ». L'écrivain a une sorte de souveraineté. On ne peut pas, en France, pays, république des lettres, on ne peut pas attaquer en justice un écrivain. Et donc, c'est cette affaire qui a été la plus médiatique. Juridiquement, elle ne posait pas de problème majeur, parce que c'était toujours en fait la même mécanique qui était en place, qui était de savoir où on mettait la limite à la liberté d'expression. Là où Jacques Laurent, dans son témoignage, exagère un peu, c'est-à-dire qu'il se donnait dans le beau rôle, il dit qu'il est un individu libre. Oui, c'est un individu libre qui appartient à l'extrême droite. Voilà, c'était quelqu'un qui est un vichiste, non repenti, qui avait une obsession anti-gaullienne. Voilà. Et donc, il a passé sa vie à écrire des livres contre de Gaulle, donc trempant sa plume dans le fiel. Et il a d'ailleurs dit, il le savait très bien qu'il commettait des délits d'offense, il a d'ailleurs dit à son avocat, j'ai corrigé le manuscrit, il n'y a plus 24 offenses, il y en a 25. J'ai arrondi à 25. Donc, il savait très bien ce qu'il faisait. Il a voulu faire de son procès une tribune. Le livre est d'une totale mauvaise foi. Il faut avoir lu, j'ai lu ce livre attentivement. J'ai lu deux fois, la première fois, j'avais pas trop bien compris. Enfin, j'avais évidemment compris qu'il était très hostile à De Gaulle, mais j'avais pas compris à quel point tout ce qu'il disait était toute la littérature d'extrême droite, ce que j'appelle le roman noir du gaullisme dans la littérature d'extrême droite, qui est une littérature très répandue à l'époque, qui j'imagine existe encore, des gens qui peignent De Gaulle sous les figures du démon. Du diable. Mmh. C'est-à-dire que tout ce que les gens voient comme étant positif chez De Gaulle, eh bien, ils voient l'inverse. C'est-à-dire la résistance, le grand résistant. Ben, pour eux, De Gaulle, c'est le traître absolu. C'est le militaire qui s'en va au moment où la France est en guerre. Donc, ils inversent. Ils proposent une contre-mythologie. Et donc, Laurent a un grand talent, c'est un grand écrivain. Donc, par rapport à d'autres, évidemment, son livre a fait beaucoup de bruit, parce que il est servi par une très belle plume. D'où l'écho, d'où la poursuite, parce que ça a été donc aux archives présidentielles, j'ai retrouvé tous les dossiers, ça a été extrêmement suivi. Ça a été lu par des conseillers autour du président, et évidemment, ils savaient que là, ils avaient affaire à un véritable adversaire.
Voilà, et ce qui a déclenché le procès, puisque nous nous intéressons à l'offense à travers la presse, c'est justement la publication par l'hebdomadaire Minute de larges extraits de Mauriac sous De Gaulle. 1959, pour se replonger dans les affres de l'époque, le discours sur l'autodétermination de l'Algérie.
Devant la France, un problème difficile et sanglant reste posé, celui de l'Algérie. Il faut le résoudre. Nous ne le ferons certainement pas en nous lançant les uns les autres à la face les stériles et simplistes slogans de ceci ou de cela, qu'obnubile en sens opposé, leurs intérêts, leurs passions, leurs chimères, nous le ferons comme une grande nation. Et par la seule voie qui vaille, je veux dire le choix que les Algériens eux-mêmes feront de leur propre destin.
J'aimerais que nous parlions, Olivier Beau, de la caricature, du délit d'offense à travers le dessin. Parce que là aussi, la guerre d'Algérie donnera lieu à des dessins d'une extrême virulence. Parlons par exemple de Corral, qui est peut-être moins connu que d'autres, qui a été un activiste de l'OAS et qui utilise le dessin comme une arme politique, qui sera condamné.
Alors Corral, oui, c'est un activiste de l'extrême droite, de l'OAS, et il est en prison, condamné justement en raison de sa participation à des activités de l'OAS. Et en prison, il rédige, enfin il dessine une bande, donc une bande dessinée, extrêmement violente à l'égard du général de Gaulle, qu'il dépeint sous les pires aspects, avec des... Il y a tout, il y a à la fois le dessin, et surtout le pire, ce sont les légendes, qui sont très très agressives à l'égard du général de Gaulle. Il le traite en latin de roi des cons, donc on a droit à un florilège de citations et de dessins qui visent à montrer que de Gaulle n'est pas du tout ce qu'il prétend être. Au lieu d'être le grand homme d'État, au contraire, c'est le traître absolu, c'est le roi qui, en réalité, n'est pas à la hauteur de sa fonction. Et évidemment, le thème de la trahison est central, donc vous avez tout à fait raison de passer ce passage sur l'autodétermination, parce que c'est le moment où l'extrême droite se retourne contre De Gaulle. Certains avait voté en sa faveur les lois de plein pouvoir, donc était favorable à son retour, et il avait dit en 58 que vive l'Algérie française, et donc tout le monde a cru qu'il adopterait cette solution, et De Gaulle le dit très bien dans ce passage, évidemment, lui va essayer de voir quel est l'intérêt de la nation, donc en bon réaliste, il va s'apercevoir que le rapport de force est défavorable à la France, et qu'il faut abandonner l'Algérie française, il le dira pas comme ça, de toute façon ça sera progressif, mais le grand discours de 59, c'est effectivement l'acte de rupture. L'extrême droite dira, voilà, il nous a trahis.
Vous racontez d'autres dessins dans votre ouvrage, Olivier Beau, un dessin publié dans la revue Le Pied Noir en 63 qui montre trois partisans de l'OAS morts, étendus sur le sol, sur lequel un oiseau de proie monstrueux a posé ses serres, la tête de cet oiseau ressemblant furieusement à celle du général de Gaulle. En 59, un autre dessin paru dans le mensuel néofasciste Jeune Nation représente le président de la République en uniforme de général, séparant dans le sang l'Algérie de la France sur une table d'opération à l'aide d'un couteau de boucher et d'une scie, tandis que gisent au sol, baignant également dans le sang, l'Indochine, la Syrie, le Maroc, la Tunisie, Madagascar. C'est la fin de l'Empire.
Oui, c'est ça. Et donc, c'est la force, c'est la force des dessins et des dessinateurs d'exprimer des sentiments, grâce à leur art qui frappe le lecteur. Et évidemment, la caricature, c'est l'art de l'exagération. Et donc, dans la jurisprudence traditionnelle, on admet une certaine tolérance pour la caricature parce que on sait bien que c'est une forme de provocation et qu'on doit la tolérer. Mais, Évidemment, pour l'offense, les magistrats ont estimé que la caricature devait être traitée comme un autre dessin, comme un autre écrit. Donc ils n'ont pas voulu, en quelque sorte, admettre une sorte d'exception de caricature. Ce que les tribunaux feront lors du premier procès contre Charlie Hebdo, vous accepteront le fait qu'on peut aller très loin parce que la caricature suppose la provocation. Mmh. À cette époque, sous De Gaulle, ils n'ont pas du tout admis cette exception de caricature.
Le plus célèbre de l'époque reste le dessinateur Pierre Pinatel, qui lui aussi vomissait De Gaulle littéralement au bout de son crayon.
Oui, il y avait beaucoup. Alors, il y a deux dessinateurs extrêmement talentueux. Mm-hmm. Tout le monde, c'était Ben, donc Benjamin Guitonneau. Mm-hmm. Il y a un recueil des caricatures de De Gaulle. Il y en a beaucoup de Ben. Tout le monde dit que c'était un dessinateur fantastique, un ancien camelot du roi, et Pierre Pinatel aussi, son alter ego, et qui est aussi violent et aussi doué dans la caricature. Et évidemment, ils ont croqué De Gaulle avec un talent indéniable, mais avec une méchanceté et une mauvaise foi totale.
Voilà, Pinatel qui avait le Pinatel Scope, c'est-à-dire un rendez-vous de la revue Minute. Alors on va en parler justement de Minute parce que ce sera central dans l'histoire de cette tension extrême entre le général de Gaulle et la presse. François Brignaud, qu'on a déjà entendu hier, outre Rivarol, il sera aussi l'un des principaux contributeurs de Minute. On l'écoute quelques années après.
La nation française, celle-ci n'a jamais été aussi menacée qu'aujourd'hui. Menacée dans son âme et son esprit, dans sa vie profonde, par des modes venus d'Amérique. Mode qui détruit ce qui fit le bonheur et la grandeur de la France et des Français. La famille, la solidarité nationale, le goût du travail bien fait, le sens profond de l'État. Menacé aussi dans sa vie physique, dans sa vie intellectuelle, dans sa vie tout court, par la nouvelle marche en avant du communisme.
François Brignaud qui va prendre la direction de Minute. Il faut raconter, Olivier Beau, dans cette histoire que nous proposons aux auditeurs de France Inter du délit d'offense, que Minute va subir de très 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 nombreux procès, que Minute à l'époque est un journal influent.
Oui, à la différence de Rivarol. Donc les deux journaux rivaux en matière d'offense, si on peut dire, sont d'une part Rivarol, mais qui tire à 50 000, et Minute qui peut tirer à 200 ou 300 000. Minute est très répandu, donc c'est un organe très influent. Et à chaque fois que, c'est pour ça que Laurent publie les bonnes feuilles dans Minute, à chaque fois ça donne un écho beaucoup plus important, et donc le pouvoir surveille de près Minute. Il y a dans les archives de l'Élysée un dossier consacré au procès donc fait à Minute. Donc c'est un journal qui est suivi. Est entendu que le parquet, quand le parquet décide de poursuivre les offenses, il doit toujours se poser la question de savoir si ça vaut la peine d'être poursuivi. C'est-à-dire qu'il se pose la question de savoir si c'est lu. Par exemple, Pinatel avait fait un journal qui a été peu lu, donc ils n'ont pas poursuivi. Le Trait, voilà. Ils l'ont poursuivi pas tout le temps parce que c'était peu lu et c'était un critère. C'est pas la peine de poursuivre pour ça. Il n'y a pas assez de lecteurs. En revanche, pour Minute, là, la question est réglée. Il y a énormément de lecteurs, donc l'influence est très grande. Et là, il faut surveiller, selon le parquet évidemment, les journaux de ce type.
Le professeur de droit que vous êtes aujourd'hui, Olivier Beau, dit quoi de ces procès avec les années de recul? Qu'il y a une forme de censure en France à cette époque?
Je parlerai pas de censure. Donc, j'ai beaucoup évolué. En tout cas, j'ai beaucoup oscillé. Au départ, j'étais très hostile aux offenses au chef de l'État, au délit. Je trouvais que c'était un délit illibéral par excellence, que c'était la suite du crime de lèse-majesté. Donc, ça me paraissait difficilement acceptable du point de vue des principes, puisque c'est une atteinte évidente à la liberté d'expression. Et j'ai progressivement changé d'avis. J'avais pas lu tout ce qui s'écrivait, à quel point tout ça était exagéré, surtout mensonger. C'est la grande question. Est-ce qu'on doit se défendre à un moment donné contre ses ennemis? On a affaire à des gens qui se proclament les ennemis de la République, qui veulent invoquer les lois de la République, c'est-à-dire la loi de la liberté d'expression, alors même qu'ils veulent détruire la République. Donc là, il y a une vraie difficulté théorique, même, qui est un jugement de valeur. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on fait? Et moi, de ce que j'ai lu, des cas que j'ai lus, je pense qu'effectivement, la défense du général de Gaulle était proportionnée. Ces gens-là ont voulu le tuer. Et il le salissait dans les journaux. Et j'ajoute un point très important par rapport à Pétain, parce que j'ai fait plusieurs chapitres sur Pétain et sur Vichy. Sous Vichy, vous disiez de Pétain, c'est une vieille baderne. Vous risquiez 1 à 2 ans de prison et vous preniez quelquefois 1 an de prison pour avoir dit dans un salon de coiffure, cette vieille baderne. sous De Gaulle, les sanctions n'ont jamais été des sanctions de prison. Alors qu'il y aurait pu y avoir des sanctions donc d'emprisonnement, c'est toujours été des sanctions financières. Donc, il y a eu évidemment une poursuite systématique, mais je dirais un usage mesuré de la répression. On n'est pas du tout dans le cas, comme il existe par exemple maintenant avec Erdogan, par exemple en Turquie, où vous avez des atteintes à la liberté de la presse qui sont constantes et qui se traduisent pour les journalistes par des peines de prison très importantes. Donc, De Gaulle n'est pas Erdogan, si vous voulez. C'est quand même très important à rappeler.
Pierre Gilbert, un chansonnier contre De Gaulle.
Aux yeux de l'étranger, nous passons, nous Français, pour un peuple léger. Et nous donnons, c'est vrai, cette impression curieuse de nous foutre un peu trop des choses vraiment sérieuses. Et moi, je crois savoir ce qui fait qu'on nous juge mal. C'est que nous possédons un défaut national. Oui, le Français, mes frères, il faut bien qu'on le confesse, s'intéresse qu'à deux choses, la tambouille et la fesse.
Vous accordez, Olivier Beau, une place à part à ce chansonnier qui collabore à Minute.
C'est l'objet, le matériau qui m'a amené à l'étudier, parce qu'il a fait un album publié dans Minute où c'est ma vie par moi-même, où il y a une description, c'est souvent drôle et extrêmement méchant, du général de Gaulle. Et donc, il multiplie les offenses en montrant de Gaulle comme étant totalement enfantin, totalement paranoïaque, totalement mégalomaniaque. Donc, tous ces traits psychologiques que l'extrême droite attribue à de Gaulle, lui, il va les mettre en scène grâce à son talent, c'est un talent d'humoriste, et à travers cette bande dessinée.
Et sous forme de roman photo.
De roman photo, oui.
Donc de roman photo, c'est ça qui est amusant. C'est-à-dire de la même manière que Pierre Pinatel va jusqu'à éditer des cendriers pour qu'on puisse écraser son clope sur le général. Donc ça prend vraiment toutes les formes.
Oui, c'est une question qui, pour certains, ne devrait pas être posée, mais qui doit être posée. C'est, ouais. Y a-t-il un humour d'extrême droite? Et donc je montre effectivement qu'il y a un humour d'extrême droite. Alors que d'habitude, on a l'impression qu'on croit que la caricature, c'est de gauche, pas du tout. On sait que sous l'affaire Dreyfus, ça a été d'une violence incroyable. Les destinataires Dreyfusards se sont déchaînés contre Dreyfus. Donc la caricature, elle est neutre. Elle peut servir, c'est un art, elle peut servir des dessinateurs de droite, de gauche, ou des gens comme Cabu, qui était anarchiste et qui était des caricaturistes fantastiques. Donc c'est un art qui peut servir à tout.
Voilà. Merci beaucoup, Olivier Beau, de nous avoir accompagnés durant deux jours pour nous raconter ce délit d'offense et à quel point la situation a été aiguë et tendue autour de la personne du général de Gaulle, 4e et 5e République. Je rappelle le titre de votre ouvrage, La République injuriée, histoire des offenses au chef de l'État, de la 3e à la 5e, et c'est paru au PUF. Merci, monsieur le professeur.
Merci beaucoup.
Le crime de lèse-majesté quand la presse insulte le chef de l'État. Demain, 5e et dernier épisode, Giscard qui dédaigne le délit d'offense, Sarkozy qui le réactive, Hollande qui l'abroge.